bienvenue dans l'émission Quartier Libre où je reçois Françoise Brunel, déléguée à la Fondation du patrimoine des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors on va faire connaissance avec cette Fondation du patrimoine, déjà un petit peu d'historique puisque ça fait quand même de nombreuses années qu'elle existe. Vous allez fêter ses 20 ans ?
On va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc, on est très content de le faire. D'ailleurs, il y aura beaucoup de manifestations en France et notre département y participera, bien sûr.
Bientôt 20 ans et vous êtes donc délégué de cette fondation depuis combien de temps ? Depuis presque l'origine ?
Depuis presque l'origine, oui. La fondation va avoir 20 ans, donc elle a été fondée en 1996, reconnue d'utilité publique en 1997 et j'ai été embauchée entre guillemets en 1998 par une patiente. Je suis médecin, donc c'est une patiente qui m'a demandé, qui m'a dit il faut absolument que vous fassiez ça. Ça va se créer en France et on veut le créer dans le département. Donc comme à l'époque on pensait qu'il y avait trop de médecins, je suis partie beaucoup plus vite que prévu alors que j'exerçais ma profession avec grand bonheur, mais c'est comme ça. Et j'ai donc fondé la fondation dans le département avec aussi un très grand bonheur et ça dure.
Alors, presque 20 ans pour la Fondation, on va voir en quoi ça consiste en fait. Vous êtes complètement investi dans cette... ça vous prend beaucoup de temps, puisque oui. Maintenant, même que vous êtes à la retraite, si on peut le dire à l'antenne, vous y travaillez tous les jours de la semaine ?
Tous les jours de la semaine, oui, sauf bien sûr le samedi et le dimanche, et puis si j'ai d'autres occupations indispensables. Mais enfin, c'est un travail, je ne suis pas seule. Nous sommes actuellement 4 bénévoles qui travaillons beaucoup avec des missions différentes. Donc la fondation est basée sur un réseau de bénévoles au départ. Il y en a 560 en France environ, avec seulement 60 salariés. C'est le but de la fondation. Et le but de la fondation, c'est d'aider les communes à protéger et à restaurer leur patrimoine rural de proximité, en particulier le patrimoine qui n'est pas inscrit au monument historique.
Donc vous avez des fonds que vous récoltez comment, par qui ?
Eh bien, nous avons différentes sources de fonds. L'État, déjà, nous donne une enveloppe annuelle que l'on répartit suivant les départements. Cette enveloppe annuelle de l'État provient des successions vacantes, c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, pendant 30 ans, on recherche les descendants, les héritiers, et si on ne les trouve pas, le bien revient à l'État. Et c'est une partie donc de ces successions en déshérence, vacantes, que l'État nous reverse pour reverser nous-mêmes aux communes. Ça repart dans le bien public, dans la restauration de biens publics. Voilà, donc c'est le but de la fondation. Elle est basée aussi sur des mécènes, de grands mécènes qui ont permis la création de cette fondation. Je vais citer quelques-uns seulement. Il y a AXA, Sodexo, Michelin, L'Oréal, la Fédération française du bâtiment, Indreco. Enfin, il y en a une douzaine qui ont permis de fonder cette fondation du patrimoine, de créer cette fondation du patrimoine.
Alors, de nombreux bénévoles, et puis bien sûr, pour c'est des enquêtes, des dossiers qui sont montés par les particuliers, par exemple, ou par les maires des communes.
Nous avons deux volets. Je veux dire aussi qu'il faut souligner une chose avec la Fondation du patrimoine, c'est sa crédibilité. Déjà, parce qu'on va parler de donateurs et de gens qui peuvent faire des dons, donc je vais d'abord dire ça. La crédibilité de la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire que nous avons eu une inspection de la Cour des comptes en 2013 et nous avons eu des félicitations sur notre gestion, ce qui n'est pas fréquent. Donc, je veux dire aussi que nous avons une gestion désintéressée, que nous n'effectuons aucune opération lucrative, en fait, nous avons une action d'intérêt général. Donc, ça, c'est pour un petit peu rassurer les donateurs sur les fondations, parce qu'il peut y avoir quelques réticences quelquefois. C'est vrai qu'on essaie d'aider les particuliers d'une part, parce que nous avons un accord avec le ministère de l'Économie et des Finances qui permet aux particuliers qui ont un bien authentique, on va dire ancien, mais aussi quelquefois un patrimoine du XXe siècle, de restaurer leur patrimoine privé avec une économie d'impôts, une défiscalisation. Ce bien, il peut être prestigieux, une grande bastide, un très beau mas, mais ça peut être aussi une petite maison de village très simple et qu'elle reste dans son authenticité. Donc, les travaux portent sur les éléments extérieurs, c'est-à-dire que c'est le cadeau que l'on fait aux touristes qui se promènent, que le gouvernement fait aux touristes pour que, justement, développer le côté touristique et, bien sûr, le volet économique d'un département.
Parce que bien sûr, de retaper des vieilles bâtisses, ça coûte excessivement cher et il faut avoir les moyens. Et il y a des personnes qui ont des héritages de beaux...
Oui, alors ça coûte cher. Bien sûr, nous conseillons les propriétaires avec le service de l'architecture du patrimoine, avec l'architecte des bâtiments de France qui donne son avis. Très souvent d'ailleurs, son avis ne coûte pas plus cher, quelquefois moins cher, parce qu'ils préfèrent que les choses restent dans leur jus, entre guillemets. Si les propriétaires ne sont pas imposables de l'impôt sur le revenu, on peut les aider dans la mesure de nos possibilités par une subvention qui leur est accordée de notre part, sur nos fonds propres. Ça, c'est le volet pour les propriétaires privés, le volet du patrimoine privé. Et par ailleurs, nous travaillons aussi beaucoup pour le patrimoine public, c'est-à-dire les fontaines, les lavoirs, les clochers, les calades d'un village. Et nous avons élargi notre éventail maintenant avec du patrimoine qui n'est pas forcément du patrimoine bâti, mais qui peut être justement, nous avons un très beau projet dans le département. Ça a fait ce matin l'objet d'une très belle émission sur France Inter, le Zoom de 7 à 9 de Patrick Cohen. Donc on a parlé de l'achat de la bibliothèque de Jean Giono. Cet achat va se faire par une grande souscription nationale, aussi bien pour les privés que pour les chefs d'entreprise qui désirent participer, pour conserver la bibliothèque de Jean Giono dans la maison de Jean Giono, là où elle est actuellement, et qu'elle ne soit pas dispersée et qu'elle puisse être vue par le grand public.
Donc, on écoutera dans un instant, si vous voulez, cette interview qui n'a pas été donnée par vous, mais par...
La fille de Jean Giono.
La fille de Jean
Madame
Giono.
Madame Sylvie Giono, oui, entre autres. Et le président de l'association des amis de Jean Giono qui soutient, qui est le porteur du projet.
Et puis, il y a aussi la réfection de la chapelle du Cousson, par exemple, qui doit se faire avant la fin de l'été, c'est ça?
Oui, la restauration de la chapelle du Cousson, qui est un lieu qui... un lieu délicieux, magnifique, dans un site intéressant et remarquable, et qui va faire l'objet, oui, de travaux à l'automne, parce que on ne peut pas remettre ça avec les mauvaises conditions météorologiques, donc ça pose des problèmes. Donc ça sera fait au beau jour, mais pas en pleine période touristique.
D'accord.
Mais nous avons beaucoup d'autres projets dans le département. Cette année, nous avons, pour 2015 déjà, nous avons 9 projets de souscription publique en cours, 9 nouveaux projets. Et depuis le début de la fondation, depuis presque donc 19 ans, nous avons fait environ 115 projets dans le département.
Ce qui est considérable.
Ce qui est considérable, oui. Mmh. Oui. Nous sommes un département très actif avec l'équipe de bénévoles qui est très dynamique.
Et alors vous, j'ai bien compris que vous avez été attrapé pour être délégué de la Fondation du patrimoine des Alpes d'Haute-Provence, mais avant vous aviez un goût déjà de la pierre, du patrimoine. Est-ce qu'il y avait déjà cette passion latente ou...
Oui, un petit peu. Je veux dire qu'elle n'était pas exceptionnelle, c'était un petit peu comme tout le monde. C'est vrai qu'on allait beaucoup, qu'on voyageait beaucoup, qu'on regardait les chapelles, les églises, les abbayes, les lieux remarquables, aussi bien en France qu'à l'étranger. Mais oui, je veux dire comme tout le monde. Mais mon travail, entre guillemets, à la Fondation, m'a permis d'avoir un regard nouveau sur les biens, aussi bien privés que publics. Je dois dire que je les regarde différemment, avec beaucoup, des fois, un œil critique. Voilà, que je n'avais pas avant, bien sûr.
Ça demande une formation aussi pour vous.
Oui, ça demande une formation. Elle se fait sur le tas. Puis alors après, bien sûr, on peut lire ce que je fais régulièrement parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est pas du tout des devoirs. C'est ce qui me plaît. Mais je veux dire aussi que je me garderai bien de donner des avis autorisés pour des restaurations parce que je n'ai pas la base et je n'ai aucune compétence dans ce sens autorisée. Donc, ça passe toujours par les conseils du STAP, c'est-à-dire du service territorial de l'architecture et du patrimoine, et en particulier de Monsieur l'architecte des bâtiments de France. C'est lui qui donne son avis, les prescriptions, la façon de voir les choses, et je m'en garderai bien de le faire moi-même. Je n'ai pas du tout les compétences pour le faire.
Bien, Françoise Brunel, on va écouter donc l'interview réalisée ce matin sur France Inter,
oui,
avec Sylvie Giono. On écoute tout de suite.
Patrick Cohen sur France Inter.
Le Zoom de la rédaction consacré donc ce matin à l'engouement des Français pour le patrimoine. On connaît le succès des journées du patrimoine ou des émissions télé sur le sujet, le plus beau monument, la plus belle ville, on le sait moins, mais plus de 32 000 particuliers ont donné l'an dernier pour aider à restaurer une église, un lavoir ou un château, des dons sous forme de souscriptions publiques pilotées par la Fondation du patrimoine. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour.
Vous avez rencontré ces Français qui ont choisi de donner pour leur patrimoine.
Oui, on ne parle pas ici d'investissement dans la pierre, mais de dons sur le même principe que les associations caritatives. Nous partons en Bourgogne, l'une des régions les plus généreuses. 900 000 euros récoltés l'an dernier, dont 120 000 pour sauver l'église de Pernan-Vergelès, au cœur du vignoble de la Côte de Beaune. Françoise Ponel est l'une des 260 habitants.
Donc ici, on est au cœur du village, là, c'est l'église. Il y a certaines parties qui datent du XIe siècle. Il y avait eu très très peu de travaux et l'ensemble de l'église était vraiment en piteux état, avec des fuites à l'intérieur. Les pierres étaient noires, recouvertes de mousse. Il y a même eu un effondrement de la charpente, donc il était grand temps qu'on commence les travaux.
Les travaux s'achèvent aujourd'hui, dévoilant un toile en lave immaculé au grand plaisir des 140 personnes qui ont participé à cette souscription, comme Stéphanie qui habite le village depuis 2 ans et Rémi, 3e génération de vignerons.
C'est important pour nous que cette église continue de vivre et on a envie qu'elle perdure dans le temps. Et voilà, on a fait baptiser notre premier fils dedans et on a envie que d'autres personnes continuent d'en profiter également.
C'est un point de repère. Encore ce matin, j'étais dans une vigne derrière, donc j'ai pas regardé ma montre, mais j'ai regardé le clocher pour voir l'heure qu'il était.
Jamais la commune n'aurait pu engager de tels travaux sans l'aide de ses citoyens, mais aussi de la Fondation du patrimoine, du conseil départemental, régional, député et même de l'Europe. En tout, Pernan va payer 50 000 euros de travaux pour une facture de 400 000 euros hors taxes, une aubaine pour le maire Jean Chevassu.
On aurait pu s'en passer, mais on aurait eu recours à l'endettement. C'est des gros projets à la hauteur du budget de la commune. C'est 4 ans du budget de la commune sur le budget de fonctionnement. On n'aurait pas pu, c'était hors norme.
Reste entamée une deuxième tranche de travaux et là aussi le maire compte sur les dons de particuliers. Il sait que les dotations de l'État vont baisser dès l'an prochain, ce qui pourrait freiner certains projets, estime Guy Bédel, le délégué Bourgogne de la Fondation du patrimoine.
Le nombre de projets en 2015 va être sensiblement équivalent au nombre de projets 2014. Maintenant, si les subventions de collectivités se raréfient, je pense qu'effectivement les communes hésiteront de plus en plus, malgré la puissance du mécénat populaire, à engager des restaurations.
Pourtant, Mathilde, jamais les Français n'ont été aussi généreux pour le patrimoine que ces dernières années.
Toute association confondue, les Français donnent en moyenne 60 euros par an. C'est le triple pour la Fondation du patrimoine qui bénéficie, comme les autres, de déductions d'impôts. François-Xavier Bieuville, son directeur général.
Nous avons eu une année record en 2013 avec près de 12 millions d'euros. L'année dernière, 11 millions 4. Ça marche parce que quand je donne pour mon pont, mon église, mon lavoir, ma fontaine, je prends conscience de la nécessité de protéger ce patrimoine qui n'est rien d'autre que mon quotidien.
La Fondation du patrimoine fête ses 15 ans. À l'époque, il s'agissait surtout d'aider les communes qui ne bénéficiaient pas d'inscription aux monuments historiques.
Et désormais, les souscriptions publiques s'ouvrent à d'autres types de patrimoine, locomotives, poupées, réverbères, ou bien cette bibliothèque dans la maison de Jean Giono que vend la fille de l'écrivain Sylvie Giono.
Nous avons ouvert cette maison. Nous l'entretenons à nos frais, sans aucune aide ni de l'État, ni de la mairie. Cette œuvre de mon père qui continue à être lu et être vendu, cet argent a servi à maintenir cette maison en l'état. Maintenant, cette maison vieillit, je vieillis, j'ai 81 et j'aimerais m'occuper de ma vieillesse et que quelqu'un s'occupe de la vieillesse de la maison.
La commune de Manosque va racheter la maison, manque 200 000 euros pour acheter une partie de la collection. Impossible pour l'association des Amis de Giono de dégager cette somme. Son président, le réalisateur Jacques Ménie, veut croire que cette souscription permettra de toucher un public plus large.
L'idée d'aider à sa préservation, de se sentir un peu propriétaire d'un petit bout de cette bibliothèque assez exceptionnelle, ça les touche. Et il peut y avoir quelqu'un qui n'a jamais pu exprimer peut-être son intérêt pour Jean Giono, qui tout d'un coup va avoir un coup de cœur et va être très généreux pour la souscription. Je sens un mouvement plus large.
16 000 euros ont été récoltés en plus de 2 semaines. L'attrait des Français pour le patrimoine ne connaît pas la crise.
Mathilde Deumy, merci beaucoup.
Sur Fréquence Mistral, nous sommes en compagnie de Françoise Brunel, déléguée à la Fondation du patrimoine des Alpes de Haute-Provence. Et donc, il était question de la fondation de Giono à Manosque. Vous disiez combien ont été récoltés en 15 jours?
Depuis le 8 juin, où il y a eu un lancement avec une conférence de presse à Paris, au Centre national du livre, sous la présidence, entre autres, de M. Pierre Berger, président de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, qui parraine le comité, qui est président du comité de parrainage. Et le comité de parrainage pour le sauvetage de la bibliothèque a des noms prestigieux. Je parle de Bernard Pivot, de Jean-Christophe Ruffin, de Boris Cyrulnik, de M. Rappenault, le réalisateur, de Mme Marie-Christine Barrault, de Tahar Benjelloul, de Métine Arditi et bien d'autres. Donc nous avons un comité de parrainage prestigieux qui soutient notre action pour justement préserver cette bibliothèque dans son intégralité. Peut-être aussi pour, d'abord parce qu'elle va être vivante, beaucoup de volumes sont annotés de la main de Jean Giono. Il prenait des notes sur ses livres, pas forcément pour... quand il avait des idées, il les notait sur ses livres, donc c'est très touchant. Et d'autre part, beaucoup de volumes sont dédicacés par leurs auteurs. Ce ne sont pas des volumes prestigieux. Il y a 8000 volumes qui sont les livres de tout le monde. Donc je dois dire que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et ça donnera peut-être aussi à certaines générations plus jeunes d'avoir envie de découvrir Jean Giono ou de lire les auteurs qui sont présents dans la bibliothèque, bien sûr.
Alors, parmi les atouts de la Fondation, il y a des prix qui sont décernés, qui sont importants. Et notamment, il y a eu récemment donc, un prix pour deux personnes, les châtelains, est-ce qu'on les appelle comme ça, de Lardier ?
Non, je crois qu'ils ne souhaitent pas qu'on les appelle les châtelains. Ce sont les propriétaires du château de Lardier qui ont fait un travail absolument magnifique. Nous avons essayé de les soutenir, la Fondation du patrimoine. Donc, ils ont beaucoup de goût, ils respectent les règles. Donc, c'est une très, très belle restauration et réalisation. Donc, les propriétaires du château de Lardier ont gagné le prix Fondation du patrimoine, vieille maison française. Ils sont allés chercher leur prix le 15 juin dernier à Paris. Ils en étaient très fiers, bien sûr. Ils en sont très fiers. Et je crois que c'est vraiment justifié de leur avoir accordé ce prix national. Hein, je suis très, très, très fier de mon département, là encore.
Donc, une belle récompense qui est aussi financière.
Oui, parce que le prix s'élevait à 7 500 €. Et c'est vrai qu'ils étaient très contents parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent dans cette restauration, mais ils étaient aussi très très contents de la reconnaissance pour leur travail et pour leur détermination, leur enthousiasme et leur volonté, bien sûr.
Un prix important qui permet aussi, bien sûr, de donner de la valeur au château. Et leur souhait, c'est d'en faire un lieu de visite.
Actuellement, ils sont ouverts à ça. C'est certain qu'il y a des parties qu'on peut ouvrir. Ils en ont parlé, qui seront ouvertes pour les Journées du patrimoine. En particulier, il y a une ancienne cuisine du XIIe siècle. Il y a une petite chapelle. Ça, je pense que ça peut être ouvert au public. Et puis le reste, bien sûr, c'est leur propriété privée, c'est leur maison. Donc on ne peut pas l'ouvrir comme ça, puisqu'ils ne sont pas classés monuments historiques. Donc ils n'ont aucune... Ils le font parce qu'ils sont très gentils de recevoir dans leur parc et les parties qu'ils peuvent faire visiter, mais ils n'ont aucune obligation vis-à-vis du public. Ils le font très volontiers parce que, justement, ils se sentent un peu responsables pour l'initiation de générations futures en particulier.
Le but des Journées du patrimoine, donc c'est un événement national.
Merveilleuse chose. Je crois que c'est une aussi belle chose que la fête de la musique. Ça a presque le même âge, parce que la fête de la musique, je crois que c'était la 33e année. Et puis cette année, justement, les Journées du patrimoine de pays, qui sont les petites Journées du patrimoine de juin, elles coïncidaient avec la fête de la musique. Et je trouve que c'est très symbolique, parce que justement, ça donnait de la vie. Le patrimoine, c'est pas quelque chose de figé, quelque chose. C'est très bien de restaurer les pierres de nos ancêtres, mais on est encore plus content quand elles vivent après, que les bâtisses sont réutilisées pour d'autres choses, qu'elles sont ouvertes sur la musique, sur l'art, avec des créations, avec des expositions, sur l'art contemporain, sur de la musique, sur des concerts. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Nous en sommes aux 32e journée du patrimoine en septembre. Toutes les nefs, les abbayes qui s'ouvrent pour que les gens visitent, il y a un monde fou à Paris, mais même en province, pour visiter tous ces monuments qui sont quelquefois fermés. Il y a aussi la télévision et Internet. Maintenant, les émissions sur le patrimoine, il y a deux grandes émissions qui se regardent maintenant en France. C'est la cuisine française et le patrimoine. Alors, Top Chef, le chef, le grand chef, et puis le patrimoine. Et les gens, souvent, refusent de sortir le soir où il y a une belle émission sur le patrimoine. Les Français aiment ça. Faut pas oublier que nous sommes aussi le premier pays touristique du monde. Et si on veut le garder, il faut que notre environnement soit beau. Nous avons 35 millions de visiteurs en PACA chaque année, 83 millions en France. Donc si on veut conserver ce palmarès, eh bien, il faut vraiment que l'on sauvegarde notre patrimoine, qu'il soit agréable, que les touristes aient envie d'y rester, qu'ils soient heureux en regardant nos rues, les rues de nos villages tout simplement quelquefois. Ça suffit.
Et c'est vrai que c'est important de faire vivre, vous l'avez souligné, par exemple la crypte de Notre-Dame-du-Bourg qui reçoit des concerts, des expositions, c'est important et on ressent des choses différentes.
Bien sûr,
aussi.
Ce n'est plus un patrimoine figé, c'est un patrimoine vivant maintenant, c'est une deuxième vie pour le patrimoine. Et je dois dire qu'en plus, un concert dans une belle nef, c'est autre chose que dans une salle polyvalente, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr, ouais.
Mais c'est quand même, c'est toujours un endroit, ouais. Quand les gens sortent d'un concert dans un bel endroit, dans une belle nef, dans une abbaye, on les voit, ils ont les rides qui remontent, ils ont le sourire, ils sont heureux, ça c'est évident. Donc la restauration du patrimoine, ce n'est pas uniquement pour les vieilles pierres, je crois que c'est pour la vie, on va dire ça.
On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
Vuoi del tè, va anche a me, siamo soli io e te, che si fa, usciamo. Che si fa, dove si va, come tanto tempo fa, questa sera, cinema.
Reprend ce quartier libre avec Françoise Brunel, déléguée à la Fondation du patrimoine des Alpes-de-Haute-Provence. On va continuer avec les projets de la Fondation pour cette année.
Voilà, on va parler des projets en cours. Voilà. Nous avons donc conclu des accords avec quelques communes du département pour les 6 premiers mois de 2015. Là, je vais parler des derniers projets. Donc un projet avec la commune de Josier, avec la commune de Saint-Pons-sur-Ubaye, de Saint-Michel-l'Observatoire pour la restauration de ces magnifiques fresques de la chapelle haute, de la commune de Saint-Martin-de-Brome pour la restauration des vitraux de son église, de la petite commune de Méaille, très très volontaire, pour la restauration de la toiture de l'église et la restauration des cloches qui manquaient. La commune d'Opédette aussi pour la restauration de son four communal, la commune de Puy-Moisson pour la restauration de du clocher de l'église Saint-Michel et de la toiture et de la porte d'entrée. La commune de Morin-sur-Ubaye pour la petite église de Morin. Enfin, la commune de Manosque dont nous avons déjà parlé. Ce n'est pas la commune de Manosque. La commune de Manosque achète la maison de Jean Giono. Nous, le porteur de projet pour lequel que nous soutenons, c'est l'association des Amis de Jean Giono pour l'achat de la bibliothèque qui doit rester dans la maison, justement, dans le Paraïs, dans la maison de Jean Giono, où il a écrit la majorité de ses livres. Donc c'est l'endroit où il a travaillé. Et je dois dire aussi que non seulement ça concerne, je reviens à ce projet, qui est un magnifique projet, tous les livres, les 8000 volumes environ de la bibliothèque de Jean Giono, mais aussi la discothèque, et également les objets familiers, qui étaient son cadre de vie, dans lequel il travaillait, c'est-à-dire son bureau, ses petits objets familiers qui étaient sur son bureau, ses porte-plumes. Tout ça, je crois que c'est très important et il faut que ça reste dans l'endroit où il a écrit tous ses merveilleux livres.
C'est certain. Alors, ça, c'est tous les projets de cette année.
Et ce n'est pas fini, nous sommes à six mois de l'année.
Ah, donc, d'accord, on n'a pas fini.
On en reparlera peut-être après, l'année prochaine peut-être, puisqu'on a encore 6 mois pour travailler. Et donc, je suis sûre qu'on fera encore d'autres projets. Là, nous sommes en juin, donc ces 9 projets que j'ai énumérés, c'est le travail des 6 premiers mois de l'année.
D'accord. Et puis, on va parler des souscriptions. Comment ça se passe? Vous parlez de l'importance de la confiance des communes.
Oui, parce que ces communes qui ont un projet de restauration, je prends un exemple simple, une commune a son clocher qui devient menaçant même pour l'environnement autour, pour les particuliers qui vivent autour. Donc c'est cher, c'est très cher tout ça. Et nous avons des communes pauvres dans le département et si on ne les aide pas, elles ne feront jamais leurs travaux, malgré leur bonne volonté. Donc nous avons l'outil de la souscription ouverte au mécénat populaire, donc qui fait appel au mécénat populaire, vous, moi, qui peuvent donner pour un projet qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Il faut que ça soit quelque chose qui vous touche au cœur. Voilà, donc à ce moment-là, comme dans les œuvres caritatives, pour les dons des œuvres caritatives, le particulier a une déduction de l'impôt de 66% du montant du don. C'est-à-dire qu'un donateur qui donne 100 euros, en fait, ne donne que 34 euros. De toute façon, c'est un acte de générosité, mais il y a une petite récompense financière au don. Pour les entreprises, c'est 60% de déduction du don. Donc une entreprise qui donne, je veux dire 1000 euros, là je ne vais pas dire 100 euros, 1000 euros, elle ne donne en fait que 400 euros. Et il y a aussi une déduction fiscale sur l'impôt sur la fortune de 75%. Les dons pour un projet particulier, c'est très facile d'aller sur notre site et de voir tous nos projets, peuvent se faire avec des chèques envoyés à la Fondation du patrimoine en mentionnant le projet. Et également, ils peuvent se faire en ligne très facilement avec un paiement sécurisé qui est très commode et qui est de plus en plus utilisé. C'est un moyen très simple. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de danger pour votre carte bleue. Donc, c'est un moyen très facile et très simple d'honorer un projet. Il est certain que ces projets que l'on réalise avec des communes, en lançant une souscription, le montant de la souscription diminuera d'autant la participation communale. La récolte des dons, c'est autant que la mairie, que la commune ne déboursera pas. Ça s'ajoute aux subventions des collectivités territoriales ou autres. Et en plus, lorsque une souscription a été fructueuse, c'est-à-dire qu'elle dépasse 5% du montant des devis, la Fondation du patrimoine, dans la mesure de ses possibilités, peut, je suis très prudente parce que cet argent nous vient de l'État, donc si l'État dit on en donne moins, on en aura moins, et si l'État continue à nous en donner, on en a, on va distribuer, à redistribuer.
Le patrimoine connaît la crise aussi ?
Pas tellement. On voit que les dons n'ont pas... Les 6 premiers mois de 2015, les dons sont importants. Ce n'est pas... Non, je veux dire que le patrimoine ne connaît pas la crise. Non, je ne crois pas. Mais donc, dans la mesure de ses possibilités, la Fondation du patrimoine peut donner, sur ses fonds propres, une subvention complémentaire. Donc, il peut y avoir 2 sources d'appoint d'argent pour la commune. Et nous sommes arrivés dans 2 communes à avoir trop d'argent. Donc, on basculera sur un autre projet du patrimoine. Nous avons récolté trop d'argent. Donc, on va le basculer sur un autre projet du patrimoine de la commune.
Et ça, c'est magnifique.
C'est magnifique. Mmh. Et la commune, justement, elle pourra recommencer. Notre but, c'est que les communes aient envie de reprendre des projets, qu'elles disent pas, ça coûtait trop cher, on s'est endetté, c'est pas possible et on va plus rien faire. Notre but, au contraire, c'est que les communes ne déboursent pas trop, que le conseil municipal, à l'unanimité, soit content, que ça soit voté avec la plus grande majorité possible, ça prouve une cohésion au niveau d'une équipe municipale, et que ça coûte pas cher à la commune. Nous avons des communes, je l'ai dit déjà, mais qui sont pauvres. Elles peuvent pas dépenser des 100 et des 1000 pour du patrimoine. Elles ont aussi d'autres obligations qui ne sont pas forcément patrimoniales. Tout se calcule et il faut que ça soit pas trop onéreux pour une commune et raisonnable.
Donc vous parlez d'une commune sur 2 qui adhère à la fondation, ce qui est déjà un bon pourcentage, mais oui, pas suffisant.
Non, on est très contents, nous sommes très contents, puisqu'on a envie d'avoir la confiance des élus. Ça, c'est très important pour nous. Nous avons la confiance du Conseil Général qui nous soutient. Et ça, je les en remercierai jamais assez, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, c'est très bien que nous ayons la confiance des élus, parce que c'est vrai qu'ils voient qu'on essaie de faire du bon travail et qu'on est dynamique. Mais je veux dire aussi que pour nous, c'est une marque de confiance. C'est une marque de confiance vis-à-vis même de Paris, un département où les maires font confiance. Et ici, c'est 1 sur 2, c'est le meilleur score de PACA pour les adhésions des communes. Mais j'aimerais que ce soit encore mieux, c'est certain. C'est certain.
Et puis, vous parlez de création d'emplois ou de maintien d'emplois grâce à la Fondation chaque année. Pourquoi ?
Oui, parce que nous engendrons certaines sommes de travaux. Nous ne sommes pas seuls, mais souvent la Fondation a un effet levier. Si on n'était pas là, j'en parlais avec les souscriptions ou avec les subventions éventuelles qu'on peut donner à une commune, les travaux ne se feraient pas. De même, les particuliers, s'ils n'avaient pas le dégrèvement fiscal grâce à nous, peut-être qu'ils ne feraient pas leurs travaux. Donc souvent, on a un effet de décision dans les travaux. Donc on calcule chaque année le montant des travaux que nous avons engendrés, et ceci définit le nombre d'emplois que l'on a pu ou créer ou maintenir. Et chaque année, c'est autour d'une quarantaine d'emplois. En 2014, là j'ai le chiffre sous les yeux, nous avons pu créer ou maintenir 41 emplois dans le département. Donc ça, c'est quelque chose dont nous sommes très très fiers, bien sûr. Puisque on a le volet touristique, le volet patrimonial, eh bien, il y a une retombée économique évidente pour le département aussi.
Alors pour revenir au département, vous dites qu'on a un département assez pauvre mais très volontaire. Sur le plan national, combien de fondations ?
C'est-à-dire que d'une fondation nationale qui a une délégation départementale.
Voilà.
Chaque département, il y a un délégué départemental qui est mon homologue, mon collègue, avec des plus ou moins d'adjoints, c'est à lui de les trouver. Mm-hmm. Et quelquefois, ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Je dois dire que c'est notre tendon d'Achille. C'est très dur de décider des bénévoles à s'engager beaucoup, régulièrement, parce que le patrimoine, ça plaît à tout le monde. Dans la rue, on dit « Oh, le patrimoine, ça me plaît ». Mais après, quand il faut venir régulièrement...
S'investir
vraiment beaucoup, plusieurs heures par semaine et très régulièrement, et surtout dans le temps, eh bien ça c'est beaucoup plus difficile. Donc on essaie d'être nombreux, mais on n'est encore pas assez nombreux dans la délégation, c'est certain.
Vous êtes en lien permanent avec les autres départements ?
Nous sommes en lien permanent avec la région PACA, il y a une déléguée régionale, qui est Madame Danielle Bellon, qui est la déléguée régionale. Donc nous avons des réunions PACA régulières. Et en plus, la région PACA est en relation directe permanente avec le siège à Paris, qui surveille entre guillemets, qui est responsable de tous les départements français, y compris Outre-mer.
Et pour la fondation du département 04, vous êtes combien ?
Actuellement, nous sommes 4 bénévoles.
4 bénévoles.
4 bénévoles, et nous dépendons d'une chargée de mission salariée à Nice, qui a 2 départements en charge, les Alpes-Maritimes et les Alpes-d'Haute-Provence, et une autre chargée de mission salariée à Marseille, qui a 4 départements dont elle est responsable, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Hautes-Alpes. À Nice, il y a donc les Alpes-Maritimes et les Alpes-d'Haute-Provence. Elle n'en a que 2 parce que nous sommes, je veux dire, sans forfanterie aucune, les départements les plus actifs. Donc, on lui fournit beaucoup de travail.
Alors, quel est exactement le but de votre travail, vos missions quotidiennes ? Est-ce que c'est d'aller sur le terrain ? Est-ce que c'est d'examiner les dossiers, les demandes qui vous sont faites ? De conseiller ?
Oui, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un grand travail au bureau. Nous avons des mails nombreux chaque jour parce que nous avons les futurs projets, les projets en cours et puis les projets anciens à régler, à terminer. Donc, aussi bien les projets privés que publics. Donc, il faut les finaliser à un moment donné. Il faut donner l'argent que l'on doit, il faut surveiller que le travail a été fait dans les règles de l'art comme il était prévu, donc il faut se rendre sur le terrain. Donc ça, il y a un travail de bureau, et puis il y a le travail aussi justement de terrain, aller voir ce qui a été fait dans les actions que l'on avait choisies, aussi bien privées que publiques, voir les projets qu'on nous propose. Je me déplace, oui, beaucoup.
Et... Est-ce que qui doit décider si oui ou non un projet retenu pour...
Il y a 2 décisions. Il y a, je vais dire, la mienne en premier, quand un projet ne me paraît pas... Et puis il y a surtout l'architecte des bâtiments de France qui dit, ah oui, ce projet... est bien, ce projet est sérieux, ça vaut le coup de s'investir, justement, ça vaut le coup de... Donc, déjà, puis les communes nous demandent, donc on voit la détermination d'une commune, et c'est vrai que les souscriptions, le succès d'une souscription dépend vraiment de l'équipe municipale, du porteur de projet, du dynamisme du porteur de projet. Tous les projets sont beaux. Et on est étonné quelquefois que des beaux projets, la souscription n'est pas fructueuse, ne marche pas très bien. En fait, il manque de communication, il manque de charisme, il manque quelque chose. Il manque quelque chose parce que le projet est beau, on y croit, et puis ça ne marche pas. Et puis quelquefois, il y a des projets qui sont beaucoup plus modestes et qui marchent merveilleusement bien. Les gens sont investis, donc ça fédère les gens autour de ce projet, dans un village, et ça marche très fort, très très bien, et on est tout à fait surpris de recevoir chaque jour des chèques pour un projet auquel qu'on trouvait pas mal, mais pas forcément le plus beau en cours.
J'imagine que vous avez une sacrée connaissance de tout ce qui est notre patrimoine dans la région. Vous pourriez facilement animer des sorties touristiques au niveau du patrimoine ?
Non, pas vraiment, parce que notre département est vaste et il est très divers. C'est-à-dire que quand on a 200 communes déjà, c'est le plus grand nombre de communes de la région PACA pour un département. D'autre part, il y a des bâtis. Et puis des gens différents. Il est certain, par exemple, que la vallée de Lubaye, c'est un bâti particulier avec des mentalités de Lubaye. Et quand on va vers Fort-Calquier, c'est encore autre chose. C'est du bâti du pays de Fort-Calquier avec des mentalités différentes, proches du Luberon, Provence, très Provence. Quand on va vers le bas du département, vers un autre Entrevaux, eh bien là, on se rapproche des Alpes-Maritimes, du bâti un peu niçois, plus coloré, et aussi d'une mentalité qui est plus niçoise et Alpes-Maritimes que par ici, que du pays dinois, par exemple. Donc c'est très diversifié. Et puis, sur le terrain, je dois dire que très souvent, on a ou des chercheurs, des historiens, ou des associations qui connaissent très très bien leur patrimoine et on les écoute beaucoup. Et on aime beaucoup s'appuyer sur eux parce que quand on travaille à plusieurs sur un projet avec des vues différentes, et en particulier des gens qui connaissent très très bien leur patrimoine, qui ont recueilli des confidences de personnes âgées, qui ont vécu là ou qui ont beaucoup travaillé, il y a des historiens qui connaissent remarquablement le patrimoine basalpin et spécifique d'une région, et ça on les écoute le mieux qu'on peut, et on se garde bien d'avoir des avis intempestifs et beaucoup moins autorisés que les leurs.
Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà ? Là, on a parlé donc de ceux de cette année. Vous en attendez encore ? Donc
sûrement.
Vous ne savez
sûrement.
Pas pour sûrement. L'année prochaine
Non, on n'a pas. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement se faire et qui nous plairait beaucoup. Je ne sais pas comment l'aborder parce que c'est des balbutiements, je veux quand même le dire, parce que c'est un très beau projet. Il y aurait un projet d'une création de musée de la lavande et des plantes aromatiques à l'Université européenne des Centres et Saveurs à Fort-Calquier. Donc c'est des balbutiements, il n'y a pas de devis, il n'y a pas encore de projet, mais c'est quelque chose qui est dans l'air, aussi bien avec, je crois, avec monsieur le député maire de Fort-Calquier, je crois que c'est un projet qui lui plairait, qu'avec l'Université européenne des Centres et Saveurs, et qu'avec aussi les grandes entreprises du département des senteurs et saveurs, je pense à quelques entreprises prestigieuses, bien sûr, qui se pourraient être intéressées et soutenir ce projet.
Donc, de la lavande à Fort-Calquier.
Un musée de la lavande à Fort-Calquier et des plantes aromatiques de la montagne de Lure, ça serait le but. Mais c'est des balbutiements, c'est une réflexion pour le moment. C'est une réflexion qui me plaît bien.
Parce qu'on parle en ce moment d'un musée de la lavande à Digne.
Qui est un musée privé.
Ah, privé.
Privé, sur le boulevard, qui est très bien. C'est une belle démarche. Je crois que ça n'a rien à voir parce que là, il y aurait une partie enseignement, puisque déjà à l'Université européenne des Centres et Saveurs, il y a un département étudiant, puisqu'ils sont en relation pour une qualification avec la faculté d'Aix-Marseille. Donc, il y a différents secteurs. Là, ça sera un échelon différent. Donc, je crois que ce n'est pas comparable.
D'accord.
C'est pas comparable. Puis c'est dans un lieu prestigieux, le couvent des Cordeliers aussi.
Oui.
Ce n'est pas un projet encore défini, c'est une réflexion qui me plairait beaucoup. Voilà. Mais on est vraiment encore dans un nuage, là.
Honte à moi, je ne connais pas encore le couvent des Cordeliers.
Honte à moi. Ça, mais je vais, bel endroit,
très vite très bel endroit. Y remédier, puisque il va y avoir un festival Cook Sound au couvent des Cordeliers, où il y a donc un principe de cuisine et de musique blues. C'est un festival qui a lieu début juillet et ça va être l'occasion pour moi d'aller réparer cette grave erreur.
C'est très très bien, et puis je veux dire que ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les lieux prestigieux, remarquables, ils vivent. Ils vont vivre avec des artistes, avec des gens qui font de la cuisine, avec des gens qui vont enseigner quelque chose, qui vont sourire. Il va y avoir du bruit, de la musique et des rires. C'est ça la restauration du patrimoine aussi.
Françoise Brunel, merci. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important ?
Écoutez, non, je ne pense pas d'important, non. Je pense que j'espère que le public qui nous a écoutés aujourd'hui sera sensible à nos projets, qui va soutenir les projets du département, la bibliothèque Jean Giono, bien sûr, parce que ça nous tient à cœur, mais aussi tous les autres projets des villages, avec des élus qui se donnent beaucoup de mal, qui sont volontaires, donc ils méritent d'être soutenus et que leurs projets aboutissent dans les meilleures conditions possibles.
Donc, si on veut souscrire auprès de la Fondation, on va sur le site.
On va sur le site ou on téléphone à la Fondation, on demande les projets en cours. Nous sommes là beaucoup déjà, mais si on n'est pas là, il y a un répondeur téléphonique.
Alors, donc,
je vais rappeler notre numéro de téléphone, Fondation du patrimoine, 04 92 30 59 88. L'adresse postale, c'est Fondation du patrimoine, Chambre de commerce de Digne, 60 boulevard Gassendi, 04000 Digne-les-Bains. Enfin, notre adresse mail, très simple, fondation.patrie@laposte.net. Je répète, fondation.patrie@laposte.net. Donc, vous pouvez nous joindre et on vous répondra très volontiers.
Françoise Brunel, merci beaucoup pour votre venue à Fréquence Mistral et puis pour nous en avoir fait connaître davantage sur cette véritable passion que vous vouez au patrimoine et à la Fondation du patrimoine des Alpes de Haute-Provence.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt. Au revoir.